salut.
Une fougue, un
délire. C'est moi Harry Potter, c'est moi.
C'est cool.
Bon, bah on va pouvoir peut-être recommencer quand même vite fait.
On commence vite fait, ouais, puis on termine
maintenant. Il y a encore une personne qui s'installe, deux personnes.
Il y a encore une place,
poussez-vous au fond. Avancez jusqu'au fond du bus, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus pour cette rencontre avec le grand, l'immense, le talentueux Karim Berouka.
Au moins, ouais.
Au moins tout ça. Karim, tu es à la fois romancier, novelliste, chanteur, parolier. Il y a quelque chose que tu fais pas dans ta vie? Comment tu arrives à gérer tout
le
ça?
Le tango, je suis pas très doué en tango.
En tango, en fait, tu es très mauvais danseur. Alors, du coup.
Je suis très mauvais danseur, ouais.
Mais ma toute première question, c'est tu es dans un festival de science-fiction, tu écris du fantastique, de la science-fiction, du post-apocalyptique avec ton dernier livre, mais comment t'es venu le goût des littératures de l'imaginaire?
Comment ça m'est venu? Ça m'est venu quand j'étais jeune, j'ai découvert une bibliothèque à côté de chez moi qui était la bibliothèque de mes cousins, qui était plus grand et qui lisait que de la science-fiction. Et à l'époque, la science-fiction et la fantasy et le fantastique étaient rangés dans le même rayon. Et donc, j'ai découvert Clifford, Simak, Asimov, Dick et d'autres, et Lovecraft. Et donc, j'ai beaucoup aimé parce que je sais pas pourquoi. On va peut-être passer en psychanalyse pour expliquer tout ça, mais mais ça m'a beaucoup plu. Et du coup, quand j'ai voulu écrire des histoires, je voulais écrire pas forcément de la science-fiction, mais au moins des choses qui sortaient du réel, de la fiction qui dépassait le réel, et ce qui m'empêche pas aussi d'écrire des conneries tout à fait autres que personne ne publiera jamais parce que c'est mauvais. Mais
et quand t'es venu l'idée d'écrire, parce qu'on sait que tu écris par exemple dans ton groupe qu'on va au moins citer une fois, Ludwig von 88, oui. Mais comment t'es venu l'idée d'écrire des nouvelles ou des petits textes?
En 1983, j'étais dans le Sinaï, et tout d'un coup, il y a une sorte de grande lumière qui est descendue du ciel. Un petit buisson qui crépitait de feu, c'était beau. Je sais pas, non, en fait, j'ai toujours voulu écrire des histoires, ado. Enfin, quand j'ai commencé à lire, j'avais envie d'écrire des histoires. Alors, je l'ai pas fait tout de suite parce que j'arrivais jamais à les finir et que c'était probablement très mauvais. Mais quand je sortirai mon intégrale Pléiade, on mettra mes premiers textes très mauvais, comme ça fera plaisir à tout le monde.
Ton journal intime.
Ouais, mon journal intime que j'ai écrit quand j'étais à l'école. Non, c'est juste un besoin d'expression, d'avoir la possibilité de créer quelque chose et d'être libre de faire un peu ce que tu veux. Du coup, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le fantastique et la SF, c'est que je peux quand même, au niveau imagination, j'ai pas besoin de me brider, mais c'est venu très vite. Et alors, je dis pas que ça a pris quand même beaucoup d'années avant que j'arrive à écrire un texte qui soit lisible, mais c'était toujours une envie, quoi.
Et tu as publié ton premier texte en quelle année, en fait?
Le premier texte que j'ai écrit,
publié.
Ah, publié.
Non, pas écrit, mais
écrit, je sais plus. 1843.
D'accord.
Le premier texte publié, je crois que c'était devait être dans un fanzine qui s'appelait L'Olifant, il me semble, qui était un fanzine vraiment génial, qui n'existe plus, qui donnait des sortes de contraintes littéraires très très compliquées pour se prendre la tête, et c'était vraiment très drôle, et c'est un très bel objet aussi parce que l'éditeur était adoré l'imprimerie, donc il faisait ça sur de l'offset lui-même. Et puis c'était dans les années 2000.
Et comment tu as construit tes premières nouvelles? Est-ce que tu avais une rigueur justement avec ces contraintes? Est-ce que ça t'a permis de travailler ton style?
Mon style.
Ton style. On va en parler à un moment donné, style. Mais.
Non, mais je sais pas. De toute façon, je pense que l'écriture c'est un processus qui se fait sur des années et. Que c'est en écrivant qu'on apprend à écrire. Donc, je pense qu'au début, c'était pas forcément très maîtrisé. Après, c'était des textes très très courts. Avec, par exemple, il y avait des contraintes. Il y avait une contrainte, c'était, ils choisissaient un texte connu, une nouvelle d'un auteur de SF français. On devait utiliser la première phrase, la dernière phrase et la phrase du milieu. En plus, il ajoutait un thème. Et on devait faire ça en, je sais pas, en 1000 signes, en moins de 1000 signes.
De la micro-nouvelle.
Ouais, de la grosse micro-nouvelle. Et donc c'est vrai que c'est assez compliqué à réaliser, mais c'est bien parce que ça fait travailler l'imagination, l'esprit. Et mais après, tu rentres pas dans la construction d'une nouvelle comme tu peux la faire, ou d'un roman où tu as toute une trame narrative où tu dois tenir, tu dois avoir un intérêt du lecteur qui enfin c'est pas la même chose quoi.
C'est pas le même but.
Hein?
C'est pas le même but.
Non, c'est pas le même but. Et avant d'écrire un roman, j'ai écrit beaucoup de nouvelles parce que justement la nouvelle permet d'isoler un thème, de travailler dessus assez sur une distance qui est pas très longue, et c'est plus facile de garder l'attention du lecteur sur 20 pages que sur 500. Et avant d'arriver à écrire un roman, il m'a fallu quand même pas mal de temps. Il a fallu que j'en écrive quelques-uns que j'ai jetés. Parce que je veux pas que personne les lise, tellement ils sont mauvais. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à comprendre mieux comment on peut, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire surtout.
T'as eu aussi une expérience éditoriale, voilà, aussi à la Griffe.
Ça c'est pas mal, formateur, ouais, aussi. J'ai bossé pendant, peut-être une dizaine d'années avec un petit éditeur qui s'appelle Griffe d'Anc, qui s'appelait parce qu'il n'existe plus. Et je m'occupais de la direction des recueils de nouvelles. Donc c'était assez intéressant parce que on me soumettait des textes d'autres auteurs. Et quand on vous envoie des textes, il y en a des très bons, il y en a beaucoup qui sont sympas mais qui méritent peut-être pas d'être publiés. Puis il y en a quelques-uns qui sont très mauvais. Et en fait, à travailler dessus, et on voit, on peut isoler plus facilement les erreurs à pas faire. Au niveau de la structure d'un récit, les trucs qui se répètent, les choses qui sont faites trop souvent.
Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'ailleurs de corriger tout le temps par rapport à son propre style, qu'on se retrouve après à écrire de son côté, à se dire, avoir une certaine appréhension du coup, puisqu'on lit des manuscrits, on les corrige. Est-ce que ça bride pas, ça t'a pas,
moi,
un peu
bridé? Moi, je les corrigeais pas, je faisais de l'édition, ouais. C'est-à-dire que je travaillais avec les auteurs, je sélectionnais par exemple un auteur dont j'avais vraiment apprécié les nouvelles. Des fois, il y avait très peu de travail, des fois, il y en avait énormément. C'est-à-dire dire à l'auteur d'avoir la vue extérieure, parce que l'auteur a beau être bon, a beau relire son texte 200 fois, il y a des choses qu'il va pas percevoir comme un lecteur extérieur. Comme un lecteur. Et donc le rôle de l'éditeur, c'est de lui dire par exemple, ce texte est vraiment très bien mais la fin marche pas, ou ce texte il y a quelque chose à revoir, il y a tel truc, lui donner des directions, après à lui de se débrouiller quoi. Mais non, c'est pas frustrant, au contraire c'est vraiment super intéressant de voir le travail qui est réalisé, ce que peut proposer un autre auteur sur un thème. Et surtout d'essayer de l'aider à améliorer ce texte. Et moi, il y a certains recueils sur lesquels j'ai bossé, je les trouve vraiment, vraiment géniaux, quoi. Et
je suis venu donner, hein, des exemples, des titres qui te viennent en tête.
Des recueils?
Des recueils ou des auteurs qui t'ont marqué.
Ouais, j'ai bossé avec Nathalie Do, qui a fait deux recueils qui sont absolument magnifiques, qui s'appellent Les Contes Mialgiques. Jérôme Noirez avait fait un magnifique recueil aussi. Jeanne Debats, qui maintenant est devenue chef.
La grande chef
aussi. Et puis des gens moins connus, Elisabeth Ebori, Marianne Lesage, qui sont pas des gens qui ont pour l'instant émergé parce qu'ils écrivent surtout des nouvelles, mais qui ont une capacité à écrire des textes absolument fabuleux, quoi. Bon, j'en souhaite que ça.
Ouais. Que de la réussite.
Et j'ai aussi bossé pendant 2 ans à faire de l'édition de traduction. Alors ça c'est aussi marrant, c'est-à-dire que je récupérais les traductions de venant de l'anglais et je relisais le texte sans comparer à la traduction, mais pour voir si y avait pas des trucs qui me paraissaient bizarres ou des anglicismes ou des, donc j'ai travaillé avec une vingtaine de traducteurs et ça aussi c'est vraiment très intéressant parce que tu bosses sur un texte qui a déjà été normalement édité en anglais. Non, je dis bien normalement parce qu'il y a certains textes qu'on avait qui n'avaient pas été édités du tout. Et puis de vérifier la cohésion du texte et de la langue que, que le traducteur a du mal à voir parce qu'il est à fond dans son boulot en permanence et qu'il n'a pas le recul, la même chose que l'auteur peut avoir c'est comme l'auteur texte. En fait. Quand on écrit un texte, je crois qu'il y a un moment où on est tellement investi dedans, on va plus avoir le recul suffisant. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui le relie, qui te corrige les fautes, ça c'est normal, mais qui te dit aussi oh là là, là t'en mets trop, là on a rien compris, ou là c'est génial, et c'est enfin voilà, c'est pas.
C'est très enrichissant. Tu es vu, après toutes ces expériences ou en peu près en même temps, tu as publié un recueil chez ActuSF.
Oui.
Je les ai ramenés ici pour les gens. On va faire un peu d'auto-promo de Karim Berouka lui-même. Avec un titre très science-fiction. Le titre le plus long de toute la collection de chez ActuSF.
Il est tellement long qu'il sort de la page un peu, non ?
Un peu, ouais. Comment tu as construit, après avoir écrit autant de nouvelles, ce fameux recueil ?
Alors, je voulais faire un recueil de nouvelles que j'avais proposé à ActuSF et j'ai. Il y a à peu près la moitié des textes qui avaient déjà été publiés. Et que c'était des textes que j'aimais vraiment bien. Et puis, il doit y avoir 4 inédits qui étaient aussi des textes que j'aimais beaucoup. Il y a 9 textes en tout qui sont assez différents. Ça va du texte complètement délirant au texte beaucoup plus sage, voire au texte très, très, très sérieux et très sombre. Et je pense que c'est le plaisir que j'ai à la fois à écrire et à lire des nouvelles, c'est que la nouvelle va permettre d'explorer plein de choses au niveau du style, au niveau du thème, au niveau de la forme. On peut sur 10-20 pages proposer au lecteur un truc complètement original. Ça peut fonctionner très bien. Sur un roman, c'est beaucoup plus difficile. Et puis c'est aussi difficile de trouver un éditeur quand tu te ramènes à un roman écrit à la deuxième personne du pluriel, sans ponctuation et avec que des robots nains dedans, par exemple. Mais ça, on peut le faire beaucoup plus facilement sur une nouvelle. Donc c'est vraiment un terrain d'expérience. Donc moi j'aime bien, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup en lire, j'aime en écrire quand j'ai le temps. Et j'aime la capacité qu'on peut. Et puis aussi, c'est vrai que quand je parlais des premières lectures que j'ai eues, il y avait énormément de nouvelles dans la science-fiction. Les Américains et les Anglais, enfin les anglophones, ont écrit beaucoup, beaucoup de nouvelles dans les années 30, 40, 50, 60. Et il y avait notamment une petite collection qu'on doit trouver d'occasion assez facilement qui s'appelait Histoire 2. Alors le premier, c'était Histoire de robots, Histoire d'extraterrestres, Histoire de voyage dans le temps, il doit y en avoir une quarantaine qui devait être réédité, je pense, par Gérard Klein.
Gérard Klein ou Jacques Guamard,
qui devait se trouver sur chez Livre de Poche, hein, c'est des poches. Et dedans, il y a vraiment des histoires des histoires fabuleuses avec un truc. Moi, ça m'a marqué quand j'étais petit, donc je pense que c'est resté quelque part.
J'avais une question par exemple par rapport au titre, par rapport au style. Tu manies l'humour de manière. Tes textes sont toujours plus ou moins empreints d'humour, sauf certains qui sont très sérieux. Comment tu fais au niveau écriture ? Tu as besoin de te référer toujours à l'humour pour écrire ou tu
Non, je prends de la drogue.
On parlait de la drogue tout
Alors,
à l'heure.
Plus d'alcool parce que après j'ai la gueule de bois, mais. Non, ça dépend. En fait, je pense que c'est les deux romans qui ont suivi sont dans la veine sarcasme humour, mais c'est plus une conjoncture que parce que j'aime aussi écrire des textes pas du tout drôles, très sérieux. Il y en a à peu près la moitié dans le recueil.
La moitié dans le recueil, c'est
après pour l'instant j'en ai pas fait en roman parce que ça s'est fait comme ça. Et mais je pense pas vouloir écrire. Pour écrire dans le même style, avec les mêmes thèmes, je voudrais vraiment, je considère vraiment d'avoir une sorte d'espace de liberté. Je peux raconter ce que je veux. On n'est pas dans un milieu commercial avec un éditeur qui va me dire oh là là, là il faut que tu me fasses un truc qui se vende parce que de toute façon, je m'en fous. Enfin, je propose des choses aux lecteurs, les lecteurs aiment, les lecteurs aiment pas. On n'a pas la contrainte économique de quoi que ce soit. On a vraiment, donc voilà, à un moment ça sera du délirant, à un moment ça sera un truc complètement glauque, à un moment ça sera de la SF, à un moment ça sera de la fantasy, à un moment ça sera du fantastique. Même si je pense que le fantastique a plus d'importance dans ce que je peux écrire que le reste. Ouais.
D'accord. On va parler de Weed et Guillotine, qui a été ton premier vrai roman, si je ne me trompe pas, et si ta bio ne ment pas, à part ceux que tu as jetés.
À part ceux que tu n'as pas lus.
Ceux que je n'ai pas lus.
Heureusement.
Heureusement. Mais comment t'es venu l'idée de faire un ouvrage de fantaisie urbaine qui prend à contre-pied les contes de fées ou... où on a du thriller, où on a une trame vraiment d'enquête policière, où on mêle les genres.
Bah l'envie de faire un truc, hein, bon, c'est pas non plus le livre le plus original du siècle, hein, mais l'envie de faire quelque chose de différent, d'utiliser des stéréotypes et des archétypes et d'essayer de les détourner. Je trouve que c'est vachement intéressant, notamment dans la fantasy et dans une part du fantastique, si on joue vachement sur les archétypes. Et il y a tout un monde à explorer en fait en essayant de pousser à gauche à droite. Donc là effectivement il y a des fées, alors elles sont pas très gentilles, elles sont plutôt mal aimables, c'est des teignes. Mais et puis on a des flics qui essayent de mener une enquête comme ils peuvent. Et je trouve que c'est tellement intéressant d'essayer de retourner un peu les thèmes qu'on a communément, qui est d'ailleurs la même chose sur le truc avec les zombies.
On va y venir.
Ouais, ouais. En plus, c'est vraiment des thèmes qui sont communs, enfin qui sont connus. On va parler de fées. Il y a des choses quand on veut parler de fées que vous allez connaître en tant que lecteur de fantastique. Donc des petits détails qu'on peut transformer, qu'on peut s'amuser à détourner, ouais. Enfin, mais
là, tu étais carrément parti sur le ton sarcastique dont on abordait tout à l'heure dans l'écriture. Donc, est-ce que tu as pris un malin plaisir à justement jouer avec cet humour, à détourner tous ces codes
Ouais, mais de toute façon, si je m'amuse pas en écrivant un livre, j'arrête tout de suite parce que c'est pas une activité qui est faite pour me faire vivre ou pour me rendre célèbre. Donc il faut que je prenne le plaisir, il faut que je prenne autant de plaisir que le lecteur. Donc et puis il y a un livre, tu te lances tu te lances, t'as trois lignes d'écrite, t'as un vague plan qui va changer au bout de cinq lignes. Et il faut que ça soit qu'il y ait un côté ludique, même quand c'est pas des trucs drôles. Il faut qu'il y ait un côté au niveau de l'imagination qui te permette de travailler, de trouver des nouvelles pistes et justement suivre une piste qui a déjà été faite et tracée. C'est pour moi c'est pas très intéressant. Je pourrais pas écrire une histoire de marmiton qui soudainement va avoir une quête et à la fin se battra contre l'empire du mal. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais moi ça me saoule en fait. J'ai juste envie que le marmiton il se prenne un coup de casserole et que l'empire du mal prenne la cuisine et mette un gros M et puis il se fasse un hamburger.
Est-ce qu'il n'y a pas des fois où tu dis je vais peut-être un peu trop loin, je m'arrête ici ou ton éditeur Jérôme Vincent qu'on va citer te dit stop.
Non, il faut pas s'arrêter. Non, pas sur ces livres-là, non. Non, je pense que je peux à la rigueur arrêter un moment dans l'écriture et virer un chapitre parce que ça se barre n'importe où et que ça devient incompréhensible, mais c'est pas une censure du je vais trop loin, c'est là je vais n'importe où, donc ça pour la suite c'est pas viable quoi. Enfin il faut que ça soit lisible aussi parce que sinon
ouais. On va parler aussi un peu de ta dernière sortie qui est nommée au prix Julia Verlanger au prix Julien Verlanger, le club des punks contre l'apocalypse zombie.
Ouais, le rouge.
Je te demanderai de refaire la présentatrice du Juste Prix.
Oui, bonjour. Je vous
j'ai plus de télé depuis 20 ans, donc ça va être du mal. Mais voilà, ce livret rouge, blanc et noir, il est
avec
beau.
Avec un anarchiste sur une tour Eiffel.
Voilà, un punk qui monte avec un drapeau anarchiste. Voilà.
Là, tu es un peu revenu à tes premières amours, le punk.
Oui, je travaillais sur la tour Eiffel quand j'étais jeune.
Oui, aussi.
Et ouais voilà. Donc mais de toute façon c'est aussi intéressant de mettre d'insérer dans les romans des choses qu'on a vécues Donc il y a pas d'histoire personnelle vraiment, mais il y a effectivement des personnages qui ont existé, qui sont en partie dans les personnages qu'on va retrouver là.
Ou des archétypes de punk qu'on peut.
Ouais, c'est plus des croiser. Gens que j'ai connus en fait.
D'accord.
Donc qui m'ont fait bien marrer. Et donc l'idée elle est un peu comme celui-là, mais encore en pire, c'est je parlais mon travail de correction de trad, j'ai bossé, j'ai fait de l'édition sur pas mal de trad d'histoires de zombies en fait. Et j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais vraiment plus parce que c'était pas des bons bouquins. C'était pas des. Je pense qu'il y a des bons bouquins avec des zombies, mais ceux-là c'était pas ceux-là. Et les histoires étaient pas intéressantes, plein de clichés machistes, survivalistes, de fans de flingues, et ça me saoulait. Et avec évidemment un groupe solidaire qui se solidarise autour d'une personne forte, un chef, un vrai, un homme avec des muscles. Et puis tous les autres, tous ceux qui mouraient, c'était d'abord les drogués, les jeunes qui étaient du hard rock, les homosexuels, tout ça, ils se faisaient bouffer en premier. Et je me dis, putain, mais c'est vraiment un truc de droite, ce truc. Donc on va faire un roman de zombies de gauche.
D'ultra-gauche
même, ouais. Donc c'est pour
ça
que c'est rouge. Différents
courants, d'ailleurs.
Ouais, ouais. Et puis, mettre des zombies à Paris. Bon, je suis pas le premier à mettre des zombies à Paris, mais c'est vrai que la plupart des histoires de zombies se passent dans l'Arizona ou dans le Tennessee ou dans le Wyoming ou je sais pas où, ou aux États-Unis en général. Donc, on va les mettre à Paris. C'est bien. Il y a plein de beaux monuments. On peut utiliser ça. On peut les casser. On peut.
Il y a la Tour Eiffel.
Il y a la Tour Eiffel. Il y a le Sacré-Cœur.
Il y a France Télévisions.
En plus, ça me parle plus parce que j'y mets plus souvent les pieds qu'à Baltimore ou qu'à Los Angeles. Donc, détourner aussi l'histoire du zombie. C'est-à-dire que dans l'histoire des zombies, normalement, c'est un groupe et au fur et à mesure, ils disparaissent. Donc là, j'ai pris le même principe. Ils disparaissent au fur et à mesure, mais comme c'est une histoire apocalyptique, ils réapparaissent parce qu'ils renaissent des morts.
Au sens littéral du terme, l'apocalypse. Hein?
Au sens religieux, au sens de l'apocalypse qui précède l'avènement du Christ et la parousie, enfin le truc qu'on apprend à l'église quand on nous enferme dans un truc avec un curé et qu'on peut pas sortir.
T'as vécu ça, toi?
Ben, j'étais curé aussi avant d'être
d'accord.
Pas
On en apprend tous les jours.
Bah oui, bah écoute, attends, c'est pas fini. Et en fait, détourner les archétypes. Alors c'est assez facile, hein, parce que le zombie, il est vraiment très très simple à définir. Hein. Il est mort et il bouffe des vivants et il fait pas grand chose. Et donc c'est aussi le problème des bouquins de zombies, c'est que en plus quand c'est en plusieurs tomes, c'est que le premier tome c'est youp la boum, c'est la fin du monde, on court, on manque de se faire manger une fois, on manque de se faire bouffer deux fois et puis à la fin mais le deuxième tome ça devient un peu chiant en fait. Donc nécessité aussi d'avoir des zombies un peu upgradés qui font autre chose que de vouloir bouffer les cervelles. Donc chaque
ils dansent
hein
enfin ils dansent
ils dansent ouais ouais mais chaque auteur va trouver un petit truc pour les faire parler ou pour leur faire articuler trois mots ou pour qu'ils aient quelque chose de plus intéressant à faire que de manger les gens qui croisent quoi et voilà quoi et puis
c'est quoi la meilleure la différence pour toi réellement à part avoir fait une upgrade sur les zombies par rapport à un bouquin que... c'est quoi la différence et la plus-value de ton livre quand on parle de zombies par rapport à un bouquin de zombies classique? À part que ça se passe.
La plus-value
qui tient le plus à cœur sur ce livre, sur tes zombies que t'as créé.
Ouais, mais le fait que, en fait, l'histoire, c'est clair, c'est une bande de punk dans un squat qui se réveille le lendemain matin et qui s'aperçoivent que tout le monde a été bouffé, ou quasiment tout le monde a été bouffé par des zombies. Et qui se dit, on va, au lieu de jouer aux survivalistes, enfin ils se le disent pas parce qu'ils sont défoncés et qu'ils en ont rien à foutre, mais au lieu d'aller jouer les survivalistes et d'essayer de survivre à tout prix, de faire un petit groupe, ils vont juste aller reconstruire le monde parce que finalement on leur a laissé le monde vierge, enfin avec quelques zombies, et on va reconstruire une société meilleure, on va faire notre utopie, on va faire notre communauté libertaire. Et on va enfin montrer aux gens que ils sont pas obligés de bosser, ils sont pas obligés de se faire exploiter. Et donc ils trouvent un endroit dans Paris qui est vraiment parfait pour ça.
Et ils se retrouvent là, et évidemment, ils ne seront pas les seuls à avoir survécu, et les autres.
Il y a des grands méchants.
Il y a des grands méchants.
On peut
les
citer ou pas ?
Non, on ne les cite pas, comme ça, si les gens le lisent, ils découvriront.
C'est vraiment un bouquin d'ultra gauche, du coup.
Ouais, mais c'est vraiment des grands méchants, même.
C'est des grands méchants.
Même,
oui.
Même aujourd'hui. Et voilà, donc voilà, il y a pas. Mon idée, c'était pas d'avoir un groupe qui survit pour survivre, mais un groupe qui survit pour reconstruire. Alors, je pense que ça doit exister dans d'autres récits de zombies, mais c'est pas très courant. Moi, j'en ai pas vu, donc j'ai jamais eu ça, quoi.
Non, il y a toujours un petit groupe qui essaye de survivre et ouais. Qui se fait bouffer à la fin.
Voilà.
À part peut-être, je suis une légende. C'est pas du zombie, mais
c'est pas du zombie. Ouais.
Mais il est tout seul.
Il est tout seul. Il a pas intérêt à mourir.
Il est tout seul. Il a sa propre communauté, mais.
Mais je classerais pas ça dans les trucs de zombies, hein. Puisque le thème est pas tant la survie que le fait de se retrouver seul au monde.
Seul au monde.
Ouais.
D'ailleurs, il y a certains de tes personnages qui, à certains moments, se retrouvent tout seul au monde.
Oui, bah éventuellement, ouais, quand tu te retrouves séparé du groupe et que tu es un peu emmerdé, quoi.
Et que tu dois renier tes convictions.
Non.
Mais du coup, en termes d'écriture, t'as vraiment pris un plaisir à écrire celui-ci, ça t'a fait du bien. Il est très critique sur certains petits points. Est-ce que ça reflète une idéologie totalement de gauche ? Est-ce que ça fait du bien de... J'ai pas le droit de citer les grands méchants, mais de...
Bah oui, ça fait du bien, parce que...
De se moquer du monde télévisuel, par exemple, de...
Bon, c'est pas du... Oui, ça fait... c'est pas se moquer, c'est juste dénoncer un peu les abus et le fait de la dépendance que les gens peuvent avoir par rapport à des médias comme la télévision aujourd'hui, où les gens ont plus la capacité de prendre le recul nécessaire pour se dire ce qu'on nous passe à la télé en permanence, c'est quand même pas le truc le plus reluisant, le plus éducatif et le plus intéressant. Il y a des choses. Après, pas toute la télé, hein. C'est sûr qu'il y a des trucs vraiment. Il y a des reportages très intéressants. Il y a des séries, des films qui sont tout à fait. Mais la télé en général, quoi. Enfin, c'est pas. Mais bon, voilà, on s'attaque aux grosses cibles un peu avec des gros méchants. C'est un peu les saurons de la société actuelle. Et en leur randonnant. Enfin bon, ouais. Mais puis de toute façon, tu fais pas un roman de zombies si t'as pas d'opposition, s'il se passe pas quelque chose. Sinon, c'est juste, comme on dit, une course-poursuite où chaque fois qu'on s'arrête, on perd deux membres et puis on perd machin, on perd truc et à la fin, on est tout seul ou on n'est pas tout seul. Ce qui marche très bien au cinéma d'ailleurs, hein, parce que les films de zombies sont assez marrants, assez intéressants pour ça. En littérature, c'est un peu plus. C'est un peu moins intéressant, quoi.
C'est moins visuel.
C'est moins visuel, ouais.
On n'a pas tout budget et fixe, on a tous les mots.
Niveau budget, c'est plus facile à gérer.
Niveau
ouais,
budget,
sûr, hein. Tu peux faire brûler la Tour Eiffel.
Niveau budget, ton bouquin te coûterait très cher à adapter, je pense.
Bah, tout ça, avec la 3D. Je sais pas. Si tu veux si quelqu'un veut adapter ce livre, les droits sont libres. Eh bah, vas-y. Ah, bah, écoute. Ça me fera plaisir.
Ça te prend combien de temps d'écrire, par exemple, ce genre de... Ce roman, t'as pris combien
de temps ? Alors, moi, j'ai un fonctionnement un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre, non pas bizarre, mais j'écris d'un coup. Ça me prend trois semaines pour écrire ça. Mais par contre, je fais que ça. Hein. Pendant trois semaines, je me lève à 9h du matin jusqu'à minuit, 1h. Et je fais que ça. Et il vaut mieux pas que je m'arrête, parce que quand je m'arrête, des fois, il me faut 6 mois pour m'y remettre, donc... Je sais qu'il y a des auteurs qui arrivent à gérer leur temps de travail, qui arrivent à travailler 1 heure, 2 heures par jour. J'aimerais bien faire ça, mais moi, j'y arrive pas. Il faut vraiment que je me concentre sur un truc, que je fasse plus que ça. Et puis, donc, c'est très bien les vacances. C'est très bien le chômage aussi, des fois. Et du coup, mais après, une fois qu'il est écrit, je vais le laisser pendant 3 mois, et puis je vais le recorriger. Donc là, il me faudra encore du temps. Je vais l'envoyer à mon éditrice qui va mettre 6 mois avant de le lire et qui, après, va le corriger. Je vais le rendre, enfin voilà,
Il va te demander de tout corriger en 3 jours.
Non, pas tout, parce que c'est comme on disait avant, t'as acquis une expérience de l'écriture et quand tu le relis toi-même, tu commences à déceler toutes les petites conneries qu'il faut pas faire, les erreurs, les trucs. Donc, plus, je pense que plus t'écris, plus t'as, t'arrives à produire des bouquins qui sont propres ou qui ont besoin de moins de correction, sauf si à un moment tu te plombes vraiment, quoi. Donc Charlotte, elle m'a surtout fait, Charlotte Volper qui bosse à ActuSF, qui me dit surtout, ben, telle phrase elle est pas nécessaire, ou tu l'as déjà dit, tu répètes ce truc, parce que ça les, c'est un truc d'auteur, on a toujours l'impression que le lecteur va pas facilement comprendre. Donc des fois on explique trop, des fois on répète trois fois la même chose, on dit mais non c'est pas la peine, on a compris, donc voilà. Donc le lecteur extérieur va te dire tout de suite, non cette phrase enlève là, tu l'as déjà dite, il y a trois paragraphes.
Et par exemple que dans les citations des groupes de punk, tous les groupes de punk que tu cites ont existé.
Ah oui, ils existent. Ou bah, les Ramones, ils sont tous morts.
Bah oui.
Mais bon, il y a aussi Victor Hugo. Hein, oui, y a des citations, même dans celui-là. Alors oui, regardez dans tous mes livres, il y a des citations de Victor Hugo. Parce que
Pourquoi Victor Hugo?
Bah parce que Victor Hugo, quoi.
C'est la classe d'avoir une citation de Victor Hugo.
C'est la classe. Dans le lyrisme, dans les poèmes de Victor Hugo, c'est toujours assez lyrique et exalté. Moi, j'aime bien. Moi. Donc j'en mets un peu partout, personne ne les voit, c'est bien. Des fois la correctrice me fait, il y a une faute là, je suis désolé, c'est Victor Hugo qui l'a écrit.
C'est pratique.
Et sinon, dans les groupes, oui, alors il y a pas mal de citations parce que ça c'est des histoires de punk. Donc ces punks ont une culture punk, ils ont une culture soit vegan, c'est-à-dire mange pas de viande ni de tout ce qui provient des animaux. Il y en a un, c'est un freegan. Alors le freegan, c'est une autre chose. C'est des gens qui ne veulent pas consommer en fait. Donc ils vont essayer de récupérer le plus de choses, faire de la récup en fait. Pas forcément en fouillant des poubelles, mais dans les, par exemple, les grandes surfaces balancent plein de trucs qu'ils peuvent pas vendre parce que c'est périmé. Donc ces gens-là essayent de les récupérer. Sur les marchés aussi, on te vend des oranges ou des légumes qui sont pas beaux. Généralement, ça finit dans les cageots à la fin. Et donc ils vont essayer de vivre de la récup. Voilà, ça, on appelle ça des freegans. Mais moi, j'ai des potes qui font ça et ils vivent très bien. Hein. Donc bon. C'est pas des clochards non plus.
T'as deux spi et fonce des.
Voilà, bon, après t'as des punks à chiens. Alors le punk à chiens, si vous habitez à Rennes, vous savez ce que c'est.
Oui.
Bon, eux, c'est un peu les mecs ingérables. Enfin, c'est une fille, un mec, qui sont complètement ingérables, qui passent leur temps à se défoncer, à faire des conneries, mais finalement, ils ont un bon fond, donc ils seront sauvés par la lumière divine. Donc il y a toute une culture punk qui est basée quand même sur des expériences ou des gens que je connais. Il y a des gens que je connais qui sont des amis que j'ai refoutu pas intégralement, mais j'ai pris des petits bouts pour reconstruire des personnages. Donc ça m'a beaucoup amusé. Et donc ils écoutent de la musique punk, donc des groupes.
C'est un peu un bouquin hommage. Hein? C'est un peu un bouquin hommage de ton ancien.
De ma jeunesse. Ouais.
De ta
hommage, je sais pas, mais c'est.
De ta première carrière que tu as reprise.
Voilà, ouais, parce que ça marchait mieux que les livres.
Ah, c'est pour ça.
Ouais, c'est un hommage, ouais, mais parce que ça me fait marrer aussi, puis parce que c'est pas vraiment des thèmes qui sont tellement exploités dans la fiction. En fait, il y a quelques bouquins écrits qui sont des témoignages, mais puis c'est toujours plus facile de d'écrire des choses qu'on a vécues ou qu'on connaît de plus proche. Parce que là, par exemple, il y a des flics, mais je suis incapable de citer un seul service de police donc j'ai mis des noms que j'ai inventés avec des acronymes qui, quand on cherche un peu, voilà, font des trucs marrants, quoi. Mais c'est pas mon monde. Je connais pas de policiers, je sais pas comment ça fonctionne, donc je serais incapable de faire un truc réaliste sur la police, sur les punks un peu plus. Sur les zombies, je pense que tout le monde peut inventer ce qu'il veut, donc ça va.
Oui, on n'a jamais d'amis zombies de toute façon, voilà. dans notre
pas entourage. Trop à quoi ils pensent, ces gens.
À manger, je pense, mais.
Mais comme nous, hein.
Oui, comme nous. Et en termes de projets futurs, tu as d'autres projets dans les cartons? Tu continues à écrire des nouvelles?
Je vais écrire une trilogie avec des elfes. Une
trilogie avec des elfes.
Alors j'ai écrit un polar que je sais pas si je vais le faire publier un jour. Donc ça, c'est un polar avec des histoires de
gens,
bah, qui est un peu qui ressemble pas mal à ça, mais sans rien de fantastique. Quand je dis ça, c'est Féoui des guillotines.
Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas montré.
Parce que je voulais essayer d'écrire un livre justement sans éléments fantastiques. En fait, ça marche très bien, c'est aussi marrant, c'est aussi sympa. Non, il y a pas de drogue, c'est des vrais. Il y a de la drogue là. Ouais,
de quoi?
La quoi? Il y a des enfants, non? Je sais plus. J'ai aussi je suis en train d'écrire un bouquin, mais je veux pas en parler parce que je suis pas certain d'arriver au bout, et si j'arrive pas au bout, il finira dans un placard. Pour ActuSF justement, qui sera que j'essaye de, je voudrais faire quelque chose d'un peu plus sombre en fait, plus moins qui se barre moins dans le sarcastique et le et qui voilà, qui soit plus un conte, hein.
Le footrack, enfin le.
Le footrack, ouais. Ou écoute, je sais pas, de toute façon, pour l'instant, j'en ai pas écrit beaucoup, donc. Mais je suis pas quelqu'un qui a des projets. Enfin, si, j'ai des projets, mais qui a un planning, en fait. C'est-à-dire que j'ai à peu près une dizaine de romans dont j'ai écrit 10 lignes et 50 lignes de plans, et je suis incapable de dire lequel je vais écrire tel jour, ou. Enfin, ça viendra comme ça viendra, quoi.
J'ai oublié de mentionner quelque chose. Je voulais parler de la fabrique de micro-littérature. Parce que c'est quelque chose.
C'est un projet qu'on a eu avec Jacques Fuentealba et Benoît Guspin. J'espère que je n'écorche pas son nom. De toute façon, il était là, mais il s'est caché.
Il s'est caché comme d'habitude.
En revenant des Imaginales, on a dit Jacques Fuentealba aime beaucoup les micro-nouvelles. Encore, les micro-nouvelles, c'est vraiment tout petit. C'est des nouvelles en, on va dire, en maximum une dizaine de lignes, mais ça peut être en général deux, trois lignes. Et on s'est dit on va prendre un support pour que les gens le lisent. Donc on fait une sorte de blog où tous les jours on publiait 3-4 micro nouvelles avec des thèmes. Donc ça a duré, moi je l'ai fait pendant 3 ans, après j'ai plus eu le temps de le faire. Et le principe, c'est vraiment de faire des textes, essayer de faire des textes narratifs ou alors des trucs qui marchent sur les jeux de mots, enfin des petites histoires de 3-4 lignes, donc des micro nouvelles. Et ça s'appelle la fabrique de littérature microscopique. Voilà, et ça existe encore.
Avec des employés du mois.
On a invité des gens. Et Jacques Fuentealba a sorti un livre qui s'appelle Micronomicon aux éditions Luciférine. Je ne sais pas s'il est en vente là, mais je vous conseille de regarder parce que c'est très très joli. C'est un livre qui a été illustré, mais c'est assez magnifique. Et en plus, c'est des tout petits textes qui sont. Bon, après, vous aimez pas, mais comme c'est des petits textes, vous pouvez les lire debout chez le libraire. Et...
Il va être content. Lisez ou vous payez pas.
Voilà.
Et du coup, ça, en termes de pratique pour toi, à quoi ça se résumait ? Tu devais penser une idée et la mettre sur papier directement.
Les micro-nouvelles ?
Ouais, les micro-nouvelles pour toi.
Les micro-nouvelles, c'est un truc marrant, mais en fait, ça bouffe beaucoup de temps. C'est tous les jours, on avait un thème commun et un thème qu'on choisissait personnellement. Et tous les jours, on devait poster deux micro-nouvelles chacun. Et en fait, c'est pas évident en fait à écrire. Des fois ça vient tout seul et des fois il faut quand même y passer 4 heures pour en faire 2-3. Et du coup, c'est vrai qu'au bout de 3 ans, j'ai plus le temps de le faire. Mais vous pouvez aller le voir, hein, c'est en ligne, il y en a des centaines. Il y a d'autres blogs aussi qui font d'autres sites qui font des micro-nouvelles, pas forcément dans l'imaginaire, hein. Il y a un auteur qui s'appelle Eric Chevillard qui est un très très bon auteur. Qui a un blog qui dure depuis, je sais pas, 5-6 ans, et tous les jours, il met 3 petits textes qui sont entre une ligne et 10 lignes. Mais il continue, et en plus, comme c'est un auteur vraiment, vraiment très doué, je pense que c'est un des meilleurs auteurs en France actuellement, il y a des trucs qui sont absolument magnifiques. Il a sorti chaque année, il sort un recueil de ses nouvelles chez L'Arbre Vengeur, qui est un petit éditeur. Et voilà, Eric Chevillard, si ça vous intéresse, c'est recommandé.
Moi, j'avais une question puisque tu nommes des auteurs à recommander dans le monde de la science-fiction et des littératures de l'imaginaire. Ouais. Qui tu recommanderais en ce moment, à l'heure actuelle, qu'il faut absolument lire ?
Karim Berouka,
mais...
Moi, j'ai beaucoup aimé Catherine Valente qui a sorti un livre qui s'appelle Immortel, qui a eu le prix... Elbakin, l'année où celui-là a eu Elbakin, c'est un livre qui c'est une réécriture d'un conte russe qui s'appelle Katchaï l'Immortel, c'est un conte très connu, hein, en Russie, et qu'elle a transposé et qui commence au début du siècle dernier et qui va suivre la révolution russe, la guerre, le stalinisme et puis l'effondrement du communisme. Et tout ça est écrit avec en fond ce conte et tout ce merveilleux russe qu'on connaît pas tellement en France. Et c'est vraiment magnifique. Je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu depuis vraiment très longtemps. Qu'est-ce que je viens de lire là? J'ai lu S. Chaton de Alex Nikolaevitch, qui est un truc de SF assez sympa, avec un monstre avec des tentacules dessus. C'est la couve qui est très jolie. Qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Toutes les éditions Griffes d'encre qu'on trouve plus. Nathalie Do, par exemple, qui est à mon avis dans la fantasy et l'auteur la plus intéressante. Moi, c'est celle qui humainement a réussi à traduire des trucs assez incroyables. Donc, elle sort des bouquins chez Mouton électrique là. Et elle avait sorti des recueils, j'en ai parlé avant. Je pourrais vous en citer une dizaine des auteurs, mais j'aime beaucoup ce que fait Léo Henry aussi. Mais c'est plus, ça s'éloigne de plus en plus de la science-fiction, même de l'imaginaire. Et puis je sais pas.
Acheter des bouquins de Karim Berouka.
Ouais, vous les lisez. Salman Rushdie qui vient de sortir un livre que j'ai pas lu, mais qui à mon avis est assez intéressant qui fait une sorte de réécriture des Mille et Une Nuits avec des djinns, une histoire d'un djinn qui raconte une histoire en fait. Et connaissant Salman Rushdie pour avoir lu quelques bouquins de lui, c'est vraiment de la littérature de qualité. Et ça aurait mérité un prix Nobel, ouais. Moi je vous le dis.
On a eu Bob Dylan.
Voilà, on a eu un chanteur.
On a eu un chanteur. J'avais une petite question, puisqu'on est dans le thème de la machine cette année aux Utopiaques, c'est une petite question récurrente que je vais poster. Pour toi, quelle est la machine de science-fiction qui te fait le plus rêver ou que tu aimerais avoir ou acquérir, et si oui, pourquoi?
La machine qui me fait rêver, ouais, waouh.
Je pose des questions.
J'écris une nouvelle dans l'auto des Utopiales sur une machine. En fait, c'est l'histoire de types qui trouvent une machine et savent pas à quoi elle sert, en fait. Elle est jolie, tu vois, il y a des vieux tubes, des trucs en cuivre, ça fait très steampunk, mais du coup, ils la font marcher, elle fait n'importe quoi. Donc c'est une machine intéressante, en fait. Tu sais pas à quoi elle sert, mais elle fait des trucs un peu... Non, j'ai aucune idée d'une machine qui me plairait. La machine qui m'a le plus marqué, c'était... D'ailleurs, j'en parle dans cette nouvelle. C'est dans une nouvelle de Robert Sheckley.
Planète à gogo.
Hein?
Planète à gogo ou...
Non, elle s'appelle La Clé Laxienne, en fait.
La Clé Laxienne, oui.
Et c'est une nouvelle, justement, dans ces recueils dont je vous parlais, qui s'appelle Histoire 2. Alors, celle-là, ça doit être Histoire de... je sais plus quoi, enfin bref. Donc, de SF, c'est l'histoire d'un mec qui est super content parce qu'il vient de découvrir, il vient d'acheter pour pas cher une machine qui produit une sorte de truc gris qui sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est assez sympa, et en plus la branche elle marche toute seule, donc il est super content, il dit je vais la revendre, je vais me faire un blé fou, et puis en fait au bout d'un moment il a quand même des problèmes avec l'équivalent de l'EDF du futur qui vient le voir en disant mais vous avez une consommation d'enfer, vous devez il s'aperçoit que cette machine elle produit quelque chose mais elle le produit pas comme ça, elle pompe toute l'énergie du truc, donc il part sur son vaisseau en disant je vais le ramener sur la planète laxienne parce que c'est une machine laxienne et ça va leur plaire. Donc en cours de route, son vaisseau tombe en panne parce que la machine lui pompe toute l'énergie du vaisseau. Il galère et il arrive finalement là-bas, hyper content. Il descend, salut, je vous ai ramené une machine qui produit un truc, je sais pas ce que c'est une machine laxienne. Et les mecs le regardent en faisant la gueule et toute la planète est couverte de cette substance. Il leur fait, on n'en veut pas de notre machine. Par contre, si vous nous rapportez la clé laxienne, on vous fait des statues partout sur le truc. En fait, c'est c'est une histoire complètement. Et c'est Robert Sheckley qui est plus tellement connu aujourd'hui, malheureusement, qui a écrit beaucoup de nouvelles de SF dans les années 50-60. C'est toujours fin, c'est toujours assez drôle, et il y a toujours une arrière-pensée. Alors là c'est sur la production la production limitée, la production de choses qui ne servent à rien, dont voilà. Et donc si jamais vous aimez les nouvelles de SF, Robert Sheckley, je vous conseille, parce que il y a quand même des choses assez intéressantes, et c'est plus un auteur dont on entend beaucoup parler, malheureusement, et comme les recueils de nouvelles se vendent très très mal en France, c'est pas un truc qu'on va rééditer facilement, quoi.
On va peut-être, Julien, on va peut-être passer la parole au public pour.
Passons la parole au public.
Pour des questions, n'hésitez pas.
Si le public.
Si le public veut parler. Parole.
Ah oui, tiens, je vais faire le. Tiens, je vais passer le micro.
Non, merci. Je ne sais pas s'il va très loin. Merci. Ça marche ?
Oui, très bien. Très bien. On n'entend plus que toi.
En parlant de la musique, j'ai
plus fort, plus près.
En parlant de la musique, j'étais étonnée de voir citer des groupes comme Lucrat Milk, ouais, que je croyais que tout le monde avait oublié.
Alors, Lucrat Milk, je pense pas que tout le monde ait oublié. Je pense que les gens qui ont connu Lucrat Milk s'en rappellent, mais je pense que personne n'a jamais connu, surtout. Lucrat Milk, c'était un groupe des années début 80, qui était un groupe punk, probablement le groupe punk le plus barré, avec une chanteuse complètement folle, un saxophoniste, un bassiste qui ne savait pas jouer et un batteur qui était probablement le seul à savoir jouer dans le groupe.
Qui ont influencé les Beru et Ludwig.
Ouais, qui ont influencé musicalement. Je pense qu'ils n'ont pas influencé grand monde parce que c'était tellement barré, quoi. Mais oui, au niveau de l'idée, ouais. Et c'est, ils ont fait 2,45 tours et un demi 33 tours à l'époque. Et voilà, Lucrat Milk. Donc c'est un peu un groupe mythique, hein, chez les punks quand même, parce que c'est
avec MKB.
C'est... avec MKB, voilà. Avec, voilà. Avec Message Rose Killers Boy, qui était aussi une sorte de groupe de cinglés, dont l'auteur Haussan, François-Jacques Haussan, a fait plus tard des films, notamment Le Chant des Hyènes et un film avec Joe Strummer, dont je ne me rappelle plus le titre. Voilà.
Donc,
et qui écrit un.
En lisant Le Club des Punks, j'ai retrouvé.
Attends, faut parler, mais j'entends pas en fait.
En lisant Le Club des Punks, j'ai retrouvé mon adolescence. Oui, tous les groupes que j'allais voir en concert et tout. Et alors, la seule question que je me suis posée, pourquoi il n'y avait pas La Souris Déglinguée dedans ?
Alors, grand débat.
Trop facho.
Voilà. Il y a pas tous les groupes, hein. Il y a des groupes qui n'y sont pas. La Souris Déglinguée n'y est pas parce que c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé, que musicalement je pourrais défendre, mais qui a toujours été très ambigu et qui n'est plus du tout ambigu à mon avis depuis un an ou deux, et qui a ouvertement joué pour une mairie qui est plus qu'une mairie du Front National, qui est une mairie de les organisateurs sont carrément des anciens mercenaires, des gens qui font partie de mouvements très très extrémistes, dont le grand kiff était d'aller en Asie pour tuer du rouge. Je pense pas que ça soit des gens très recommandables.
Je pense que Taïlu était rouge ambigu ou autre, hein. À l'époque, mais quand il chantait Cœur de Bouddha, on pouvait pas dire qu'il soutenait l'extrême droite.
Non, mais c'est un groupe qui a toujours été ambigu, qui a jamais pris le parti de dire nous sommes contre telle chose, nous sommes pour telle chose. Et quand on a des amis qui sont ce que je considère en France comme le ce qu'il y a de pire dans l'extrême droite, qui est déjà quand même pas un truc très sympa, c'est un choix. Je veux dire, on peut pas se réfugier en disant nous aimons tout le monde, nous jouons pour tout le monde. Enfin, je le fais pas. Je vais pas jouer dans un. Après, vous pouvez être d'extrême droite si vous voulez. Hein, c'est pas, je suis pas là pour juger les gens, mais il y a une. Là, on est même plus dans les. On est vraiment, vraiment dans l'extrême extrême droite. On est vraiment dans des. Et puis surtout, ce côté de pas assumer, parce que la souris n'a jamais voulu. Il y a eu une polémique. N'a jamais dit. On a fait ça. On en était conscient du truc. Ou on l'a fait. On s'est fait avoir. Mais tu vois, il faut à un moment. Il faut avoir. Il faut ne pas avoir honte ou avoir le courage de ses opinions politiques. On n'est pas obligé de faire de la politique, mais moi, je n'écrirais pas un bouquin avec des punks anarchistes si je trouvais que l'anarchie, c'était le truc le plus détestable du monde. Voilà. Donc, je ne suis pas anarchiste, mais il y a des choses dans ces idées-là qui me plaisent, en fait. Ouais.
Et justement, est-ce que tu considères que ce bouquin, ce n'est pas aussi quelque part un manifeste politique ?
Non, c'est pas un manifeste politique parce que c'est même si il y a des explications, il y a ces punks, dans le groupe de punks, en fait, il y en a un qui est très politisé, qui s'appelle Kropotkin et qui justement un peu le guide, qui est un peu le guide éclairé. Et donc lui, il veut justement faire cette société juste, libre, autogérée. Et donc il y a ces notions qui sont mises en avant, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas poussé très loin. Si les gens arrivés à la fin du livre trouvent que c'est assez intéressant comme idée, il y a des bouquins très intéressants qui ont été écrits sur l'anarchisme, sur d'autres mouvements politiques ou des expériences de vie communautaire comme ça, mais ça c'est juste un roman, quoi.
Et après avoir écrit des bouquins, comment tu considères l'écriture de chansons ? Ça n'a rien à voir ou il y a quelque chose de...
Pff,
de proche.
Non, c'est pas la même chose. Hein. C'est ça a absolument rien à voir. Hein. Une chanson, tu l'écris, c'est déjà c'est pas très long. Ça peut être aussi quelques paroles qui sont. Tu vois, par exemple, les Ramones, c'est un groupe punk que les gens connaissent quand même peut-être plus facilement que Lucrat Milk. Les paroles sont hyper simples, c'est quelques lignes, mais c'est tellement bien fait et ça va tellement bien avec la musique que ça en devient génial. Mais non, c'est pas le même procédé. Déjà, le mot, en fait, la phrase, quand elle est chantée, elle gagne un sens qu'elle n'a pas forcément quand elle est prononcée. Et on pourrait, à la rigueur, comparer les poèmes aux chansons, ça serait plus proche, mais même, je suis même pas certain que ça soit le même. Mais ça n'a rien à voir, hein. De toute façon, tu peux écrire une chanson le matin en travaillant parce que tu as tout d'un coup une idée qui te vient dans la tête et que finalement c'est génial, mais le roman, il faut quand même le penser, l'avoir, le mûrir, le. Enfin, c'est pas.
Et tu disais que tu avais bossé à fond pendant 3 mois quasiment.
Trois semaines.
Ouais, pendant 3 semaines.
c'est pas moi, Stakhanov. Hein.
3 semaines de 9h du mat jusqu'à minuit.
Ouais.
Et comment tu arrives à vivre socialement pendant ces 3 semaines? Tu t'es exécrable?
Je suis pas social. C'est le problème des écrivains, c'est que c'est des gens imbuvables. Bah non, mais je peux sortir quand même le week-end, j'ai le droit de sortir le samedi soir. Ma mère me laisse sortir. Mais clairement, tu sais, quand tu fais ça pendant les grandes vacances, le mois d'août, entre le 1er août et le 30 août, à Paris, il n'y a personne, c'est pas très grave. Hein. Tu peux aussi ne pas voir quasiment personne pendant un mois. Enfin, c'est pas. Quand je dis j'ai travaillé tous les jours, j'ai aussi mangé quand même, je me suis arrêté pour. Enfin, j'ai pas. Mais c'est parce que t'es dans une sorte de truc qui est très motivant, t'es à fond dedans, tout ton esprit est consacré à ça, et c'est vrai que quand tu te lèves le matin, t'as des nouvelles idées, t'as envie de les écrire, donc tu t'y mets, tac 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 tac, de temps en temps tu vas faire un trou dans les bois, ça t'aère la tête et ça te. Mais voilà, c'est, je sais pas, chacun. Hein.
Et t'écoutes de la zik en écrivant ou pas?
Ouais, je mets de la zik, mais je l'écoute pas en fait, je l'oublie au bout de 5 minutes, donc. Donc quand c'est un vinyle, ça tourne pendant une heure en faisant. Donc c'est pour ça que je mets des. Mais bon, ça m'influence pas du tout et j'ai pas de.
On va peut-être prendre une rapide dernière question avant de se quitter, s'il y en a une.
Es-tu toujours bière et punk?
Pardon?
Es-tu toujours bière et punk?
J'ai plus assez de cheveux pour être punk et maintenant je bois du rhum parce que. C'est trop classe. Je suis riche, ouais.
Bon, sur cette dernière intervention, on va tous vous remercier d'être venus nombreux à cette conférence et on va vous souhaiter une bonne fin de journée de festival.
Merci beaucoup.